J'aime ces moments-là parce que ce sont des moments où je trouve qu'aujourd'hui, vous savez, avec l'émergence et puis la diffusion des réseaux sociaux, on se fait... Il y en a qui se cassent pas la tête, si je puis dire. Ils font un truc sur Facebook, sur Messenger, et puis ils vous envoient bonne année à tous, etc. Et je crois, moi, enfin, vous allez dire que je suis un peu vieux jeu, mais je trouve que ces moments-là où on prend 5 minutes pour se bénir les uns les autres, et encore, j'ai plus eu l'occasion d'avoir tout le monde. J'aurais voulu embrasser tout le monde, mais je vous le fais. Voilà. Ce sont des moments que j'apprécie beaucoup. Parce que je trouve quand même une certaine... que parfois, c'est une certaine légèreté avec laquelle on veut bénir les uns les autres. Donc, je vous souhaite une bonne année. Mais tout en sachant que cette année, et ce n'est pas une parole de malédiction que je dis, elle sera jonchée de bons moments, mais aussi des moments plus difficiles. Et ça, il faut en être conscient. Parce que l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile à l'eau de rose. Nous ne sommes pas plus grands que le maître, Jésus a dit. Et qu'il y aura des combats, il y aura des difficultés. Et le tout est de savoir comment, un, nous voyons l'épreuve dans notre vie, deux, comment nous réagissons émotionnellement par rapport à cette épreuve, trois, comment agissons-nous, et quatre, quelle est la puissance de la croix qui nous amène jusqu'à la consolation par rapport à cette épreuve. Comment nous considérons la puissance de la croix ? La semaine dernière, il y a eu un message qui me paraissait important sur lequel il faut revenir, où on a abordé le sujet de la consolation. Quoi qu'il en soit, Dieu veut consoler son peuple. Je n'ai jamais vu un père, maintenant je suis papy, vous le savez, ça se voit, vous l'entendez, quand mes petits-enfants arrivent, j'ai le droit à des papis qui me rendent heureux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Papy, avant c'était pipi, jusqu'à le week-end dernier, pipi, ouais, c'était pi. Mais maintenant c'est papy, depuis une petite semaine, à mon petit-fils qui a trouvé mon vrai nom. Donc ça me va bien. Et je sais que si je vois un de mes petits-enfants, ou même un de mes enfants, ou l'un d'entre vous, blessé, ça me fend le cœur, comme disait Marius en jouant à la belote. Ça me fend le cœur parce que c'est l'amour que j'ai, que Dieu a mis en moi, qui me pousse à la consolation. Et je crois que nous devons nous consoler les uns les autres. Mais ce n'est pas juste une affaire émotionnelle, la consolation. C'est une affaire spirituelle. Pourquoi ? Et ça a été dit la semaine dernière, Christ et l'Esprit-Saint sont appelés des consolateurs. Pourquoi Christ est appelé en Ésaïe le réparateur de brèches ? Parce que Dieu veut réparer les fissures, les brisements dans nos vies qui sont liés à l'épreuve. Donc c'est un peu le sujet de ce matin. Et pourquoi je fais ça ? Parce que j'étais fortement ébranlé, je dois le dire, toutes les nouvelles qui sont arrivées en fin d'année. J'ai vu des épreuves de maladie, des épreuves sur le plan matériel, j'ai vu des personnes être brisées sur pas mal de domaines. Et je me dis, et c'est souvent la question qu'on se pose, mais pourquoi Seigneur ? Et j'ai cherché une réponse que voici. Je ne prétends pas répondre à toutes les questions concernant l'épreuve. Et vous ne me verrez jamais dire l'épreuve, c'est à cause de ça. J'ai essayé de trouver une définition biblique. C'est compliqué de définir l'épreuve. Parce que pour les uns, une petite chose qui nous paraît anodine va paraître énorme. Et d'autres, on voit des personnes, on se dit, mais ces personnes-là, comment tiennent-elles le coup avec tant d'épreuves dans leur vie ? Alors voilà, je vous donne ce que j'ai compris, c'est un événement qui est non voulu. Qui veut être éprouvé ici ? C'est un événement imprévu, non prévu, qui cause une douleur physique ou morale. Vous êtes d'accord jusque-là ? Avec un sentiment profond d'une distance entre Dieu et nous. Pourquoi ? Parce qu'on le verra, souvent l'épreuve Dans l'épreuve, on se sent éloigné de Dieu. Attends, on croit et on dit souvent, mais où es-tu, Seigneur ? Que fais-tu, Seigneur ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Seigneur, encore une fois ? Et nous, et dans laquelle nous ne ressentons pas, et souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on ne reçoit pas de réponse à nos prières et de réponse à nos questions. Voilà la définition. Événement non voulu et non prévu qui cause une douleur physique ou morale, avec un sentiment profond d'une distance entre Dieu et nous, dans laquelle nous ne recevons pas de réponse aux prières et aux questions. Les origines, à juste titre, quelqu'un m'a posé une question. Dieu n'est jamais l'instigateur des épreuves. Je ne vois pas ça dans la Bible. Par contre, souvent les épreuves sont le résultat de nous-mêmes, de notre péché, de nos actions, de nos choix. Et souvent, je suis désolé de vous le dire, mais on a tendance à remettre sur Dieu la responsabilité qui nous incombe en réalité. Et souvent aussi, l'autre origine, et elle n'est pas des moindres, je dois vous l'avouer, c'est que Satan s'engouffre dans les moindres petites failles de nos vies pour y mettre son grain de sel dans ces épreuves. Donc les origines, c'est nous-mêmes, nos péchés, nos choix et Satan. Après, on peut discuter théologiquement, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris jusqu'à ce jour. Alors Job, c'est, quand on parle de l'épreuve, on parle souvent de Job, n'est-ce pas ? Pourtant, on a vu plein, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, des personnes, des hommes et des femmes qui aimaient Dieu, qui cherchaient à le servir, qui cherchaient en tout cas à le connaître davantage, à subir des épreuves. Mais le réflexe numéro un, c'est, tiens, Job, l'épreuve, c'est Job. Et on lit Job dès qu'on a une épreuve. Avez-vous remarqué cela ? Et Job, il faut savoir que c'était un homme intègre, un homme droit, un homme qui craignait Dieu. Il avait une crainte respectueuse de Dieu. Et il est dit qu'il se détournait du mal. Au milieu d'un monde corrompu par le péché, il y avait un homme comme Job. Et Dieu nous dit, vous savez, au milieu d'un monde imprégné par le péché, c'est possible d'être comme Job. C'est possible d'être intègre, c'est possible de craindre Dieu, c'est possible de se détourner du mal. La première des choses que Dieu veut nous dire à travers l'histoire de Job, c'est « Es-tu comme lui ?» Intègre, le craignant et te détournant du mal. Parce que dans la génération qui vient, il faudra que le monde voie la différence entre les enfants de Dieu et le monde. Les anges viennent se présenter devant Dieu et Satan, il s'incruste à la petite fête au milieu de l'assemblée et Dieu lui dit « D'où viens-tu, Satan ?» Et Satan dit « Je viens de parcourir la terre. » Et Dieu va dire à Satan devant toute l'assemblée, donc vous imaginez le trône, vous imaginez Dieu dans sa gloire, Satan qui se présente, Dieu dit « Que viens-tu faire ici, toi ?» Il dit « Je viens de parcourir la terre. » Et regardez ce qu'il est en train de dire au sujet d'un homme qui craignait, qui se détournait du mal et qui était intègre. Il est en train de dire « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Dieu avait discerné, il avait vu au milieu d'un monde corrompu un homme intègre. Un homme entier, incorruptible, un homme qui était droit, un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal. Dieu avait remarqué, et à chaque fois, sachez-le, quelles que soient les circonstances de vos vies, quelles que soient les difficultés, les épreuves de vos vies, Dieu reconnaîtra toujours votre droiture. Il reconnaîtra toujours votre intégrité et il reconnaîtra toujours votre incorruptibilité face au péché. Et remarquez ceci, c'est que ce ne sont pas les hommes qui disent que Job était intègre, droit et craignant Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui le proclame. Et vous savez, souvent les gens cherchent l'approbation des hommes Il cherche à être reconnu par les hommes. J'ai entendu tout à l'heure la prière où quelqu'un a dit « Nous ne recherchons pas à plaire aux hommes, mais nous cherchons à plaire à Dieu. » Et ce qui doit nous importer dans notre vie, ce n'est pas de plaire aux hommes. Bien sûr, c'est sympa quand on plaît aux hommes, hein. Mais ce qui est important, c'est de plaire à Dieu avant toute chose et de rechercher l'approbation de Dieu dans nos vies. As-tu remarqué ? Dieu est en train de dire à Satan, as-tu considéré ce que cet homme est et pas ce qu'il fait devant les autres ? Mais ce qu'il est dans son cœur, dans la structure interne de son cœur, dans ce qu'il est dans ses tripes, dans ce qu'il est dans son attitude intérieure, cet homme est droit, cet homme est intègre, il ne fait pas les choses comme un homme religieux. Il ne fait pas les choses pour être vu, il fait les choses parce qu'il m'aime, tout simplement. Et Jésus dira d'ailleurs, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est pas celui qui les fait devant les hommes. Mais c'est celui qui le fait devant moi, dans l'intimité de son cœur. Et Dieu dit à Satan, as-tu remarqué comment cet homme est construit ? Quelle est l'architecture de cet homme ? C'est un homme hors du commun. En réalité, cet homme-là, il vaut le coup de lui ressembler. Non ? Qui voudrait ressembler à Job ? Bon, maintenant, on va passer au moment difficile. Il y en a qui n'ont pas levé la main parce qu'ils connaissent peut-être l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que cet homme est intègre, cet homme est droit, cet homme craint Dieu et pourtant, ça n'empêchera pas l'épreuve de venir. Autrement dit, l'épreuve, l'année 2019 a peut-être été pour vous une année où vous avez vécu des épreuves. Mais l'année 2020 sera, ah, je suis désolé de vous le dire, peut-être que dimanche, il n'y aura plus personne, mais l'année 2020, il y aura sans doute encore des épreuves. Eh oui, parce que cet homme a voulu obéir, Satan s'est déchaîné contre lui. Et lorsque Satan répond, Seigneur, je viens de parcourir la terre, ça veut dire aussi que Satan, il a considéré ce qu'il y avait dans l'architecture de cet homme. Il avait considéré ce qu'il y avait dans ses tripes. Il avait vu que cet homme, il était impénétrable parce que Satan voulait faire et amener dans sa vie. Et Satan veut maintenir sur cette terre un standard satanique. Il veut maintenir le péché. Il veut amener les hommes dans le péché. Il veut amener les hommes à s'auto-détruire. Il veut détruire des familles. Il veut briser des relations entre les personnes. Mais pire encore, il veut détruire les relations entre Dieu et les hommes et les hommes et Dieu. Et ça, Job fait tout le contraire de ce que Satan veut instaurer. Et ça, ça ne lui veut pas. Il ne fait pas ce qui est habituel, Satan. Il ne ment pas, il ne vole pas, il n'insulte pas sa belle-mère, il aime son prochain, il aime sa belle-mère, il bénit ceux qui vivent avec lui, il aime l'Éternel de tout son cœur. En réalité, il est en train d'accomplir le commandement que nous voyons dans Luc, où Jésus, un homme religieux, vient le voir et il lui dit... Que dois-je faire pour hériter, pour avoir la vie éternelle ? Pour avoir la vie éternelle, Jésus lui dit, que disent les commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Satan, ça, il veut s'opposer à ça. Il veut s'opposer dans nos vies à ce que nous puissions aimer Dieu, mais d'une manière vraie, en esprit et en vérité, et il veut s'opposer à ce que nous puissions aimer les autres. Je disais dans ma prière ce matin, lorsque nous étions en train de prier dans la petite salle là, je disais qu'aimer c'est la vie et la vie c'est aimer. Dieu est amour. Et ça, ça va provoquer quand même l'attitude de Job, une longue conversation et discussion dans les lieux célestes. Après, donc, Job, il va perdre tout ça. Il va perdre ses biens matériels. Et ouais, ça va lui coûter d'adorer, d'aimer. Ça va lui coûter au point qu'il perdra même ses enfants. Et je ne peux m'imaginer ce que c'est que de perdre un enfant. Et il va même être attaqué dans sa propre santé. Et voici ce que les paroles de Job. Je voudrais que ça rentre dans votre cœur. Dans les épreuves qui sont passées, dans les épreuves qui vont venir, quelles seront les paroles qui sortiront de ma bouche ? Le Seigneur a donné, a-t-il dit. Le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez jusqu'à où a été la structure interne de cet homme. Ça, vous avez les preuves. Je ne viens pas expliquer pourquoi il est tenté. Ce n'est pas ça qui m'importe ce matin. Ce qui m'importe, c'est d'essayer de comprendre comment je suis et comment je vis l'épreuve. Et ça, vous voyez, quand vous avez un homme qui devant, parce que j'ai déjà vu des gens qui ont juste perdu leur bien. J'ai un ami qui, une fois, il a tout perdu. Il n'avait plus un centime pour manger. J'ai connu des enfants qui ont perdu des personnes qui ont perdu leurs enfants. Et j'ai vu aussi des personnes qui ont perdu la santé. Mais les trois en même temps comme ça, vous imaginez ce qui tombe sur cet homme à ce moment-là ? Et cet homme, il est écrit de lui qu'il ne pécha point par ses paroles. Comme j'aimerais ressembler à Job. Parce que ça est la preuve indéniable que quand Dieu voyait en lui quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'entier, quelqu'un de droit, c'est la réaction face à l'épreuve qui vient prouver qui il est réellement. Maintenant, on va voir les réactions face à l'épreuve. Le psaume 42 dit ceci. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Le premier sentiment que nous avons lorsque nous sommes éprouvés, c'est un sentiment d'abandon. Qui n'a jamais dit « Dieu m'a abandonné » ou « Dieu n'entend pas » ou « Dieu n'en a que faire de moi » quand il a été éprouvé ? Qui n'a jamais dit cela ? Ça va, personne ne lève le bras, la main. La deuxième des choses, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit » pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Qui n'a jamais douté sur l'amour de Dieu lorsqu'il a été éprouvé ? Les gens ou nous-mêmes. Parce que parfois, il y a des gens bien intentionnés. Hein. « Ah, t'es croyant, il t'arrive tout ça ? T'es sûr que Dieu existe ? T'es sûr que Dieu t'aime ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie, des actions de grâce d'une multitude en fait. Souvent, on se dit, mais on aimerait bien rembobiner la cassette. Ça, c'est pour les plus anciens. Faire rewind. Et on revient en arrière. On se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais revenir dans les temps où j'étais bien, où j'étais dans la joie. Et d'autres, pourquoi t'as battu mon âme ? Le découragement ? Qui d'entre nous n'est jamais découragé par l'épreuve ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Les gémissements parfois. Parfois on n'arrive même plus à prier, on gémit. Il y a des personnes, enfin moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai gémi dans des périodes de ma vie devant le Seigneur. C'est pas terrible, hein, l'épreuve, quand même. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Des successions d'épreuves. Des fois, on a même l'impression que c'est le Seigneur qui nous envoie tout ça. Il dit là, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. C'est-à-dire qu'on vient dire que c'est Dieu qui est en train de faire ça. Alors que c'est souvent, et À 99,9%, ce n'est jamais Dieu qui fait ça. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Sentiment d'abandon encore. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ? On se pose des questions et on est dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi. On a même des oppressions et des combats intérieurs. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» On a un afflux de pensées humaines, mais aussi pensées sataniques qui nous amènent encore plus bas. Et là, il y a un remède face aux sentiments et aux réactions. Toujours dans le psaume 42. Si tu veux un remède à l'épreuve, voilà, j'en ai un peu basé sur la parole de Dieu. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et le psaume 42 commence par ce verset-là. Eh oui, soupirer, c'est une respiration forte qui est occasionnée par la douleur. Mais soupirer après qui ? Dieu ou quoi ? Souvent, nous soupirons et nous demandons à Dieu, nous soupirons après la résolution du problème, où on dit « je veux que ça se fasse comme ça ». Non, jamais vous ? Je vous raconte un petit témoignage qu'on ne coupera pas. J'ai même plus honte de ça. Ça faisait peut-être un mois que nous étions au Seigneur avec mon épouse, donc c'était il y a très longtemps. Et puis, je jouais au tennis à l'époque avec un ami. J'arrive au-dessus de la courbe de Babylone pour aller vers Roubaix. J'étais très en retard. Je me suis mis à rouler très vite. Chose qu'il ne faut jamais faire, hein, d'accord ? Surtout devant la police. Donc, qu'ai-je fait ? Je roulais à 110 au lieu de 70 au-dessus de la courbe de Babylone. Bien sûr, il y avait des messieurs en képi. À l'époque, c'était des képis. Et qui m'ont arrêté un peu plus loin, qui m'ont mis une belle prune, d'accord ? Retrait de permis et tout, hein. 110 au lieu de 70, c'est beaucoup quand même. Je rentre à la maison, perturbé. Et là, je vais chercher Dieu, je dis, mais Dieu, pourquoi tu as voulu ça ? Et je me mets en colère sur le Seigneur, pas honte, hein, le gars, vous voyez ? Et je dis, mais je suis irrité. Et je vous dis irrité parce que c'est plus poli. Hein. Il en a pris plein la tête, le Seigneur, ce jour-là. Et là, je me mets à crier de douleur. Il y a bien un truc que j'aime pas, c'est me faire piquer pour excès de vitesse. Ça m'énerve. Et là, une voix est venue. Et la parole était claire. C'est la première fois que j'ai entendu Dieu me parler, clairement. Il m'a dit, pourquoi tu t'irrites ? Le résultat de ce qui t'arrive n'est que de ta responsabilité. Maintenant, je vais te dire autre chose, Bruno. Clairement, c'était clair comme ça. Tu te permets de t'irriter pour un retrait de permis que tu vas avoir, alors que autour de toi, mon cœur saigne pour tous les gens qui sont en train de mourir loin de moi. Ce jour-là, je cherchais mon quoi. Je cherchais une réponse à mon problème, mais je ne cherchais pas la face de Dieu. Et il a fallu que le Saint-Esprit parle, il a fallu que le Saint-Esprit vienne vraiment briser cette colère qui était en moi, cette incompréhension en moi, pour que j'entende. Et ce jour-là, vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis repenti. J'ai demandé pardon et j'ai dit, Seigneur, ce qui importe à vrai, c'est tout. C'est toi dans ma vie. Le deuxième, le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit son chant m'accompagne, c'est une prière au Dieu de ma vie. L'épreuve permet à notre Dieu donc de sonder notre soif de lui, mais l'épreuve aussi permet de sonder notre foi en lui. Quand il nous arrive des difficultés, mesurez cela. Est-ce que C'est ton problème qui t'intéresse ou est-ce que c'est Dieu qui t'intéresse? Va sonder ça. Lui, il le sait, le Seigneur, il n'a pas besoin de sonder, mais toi, tu as besoin de mesurer ça. Quand le Seigneur, quand il t'arrive des difficultés, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu vas chercher sa face? Est-ce que tu vas continuer à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances? Sondez ça. Mesurez ça et vous verrez. Un remède face aux sentiments en réaction. Pourquoi? T'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et là, il y a une question qu'il pose, mais aussi, il est en train d'ordonner à son âme. C'est ce que je disais tout à l'heure pendant le temps d'adoration. C'est vraiment important parce que vous savez, nous sommes faits d'un esprit, d'une âme, le siège de nos émotions, de nos sentiments et notre intelligence, et d'un corps. D'accord? Et en fait, ce qui se passe lorsque on devient enfant de Dieu, c'est que notre esprit était comme enfermé, comme mort, si je puis dire. Il n'influençait quasiment pas notre âme. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vient en fait éclairer notre esprit. Et c'est notre esprit qui commence à, si je puis dire, éclairer le reste. Vous savez, c'est pas au niveau de l'âme que se passe la nouvelle naissance. C'est au niveau de l'esprit. Tu nais de nouveau. Jésus a dit, celui qui naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. Il est en train de dire, en fait, que c'est ton esprit qui doit être éclairé. C'est l'esprit de Dieu qui vient donner vie à ton esprit. Et alors, la restauration peut commencer. Alors, mon âme peut commencer à être influencée par mon esprit et par donc par l'esprit de Dieu et non plus par mon propre corps. Et l'épreuve permet à notre Père de nous donner la victoire sur notre âme en remettant en question les réactions de notre âme. Souvent, nos réactions sont des réactions négatives. Et alors que je vois l'apôtre Paul, et j'en parlais avec le frère et notre ami Eric hier, je dis, moi, ce qui est extraordinaire, c'est quand je vois Paul qui dit, on est lapidé, mais on est encore debout. Je suis mort, mais je suis persécuté. Mais il donne toujours une réaction de l'esprit en lui derrière cette épreuve qui lui arrive à chaque fois. Et je lui ai dit, Eric hier, je dis, mais ça, c'est quelque chose que je voudrais vivre. Parce que j'ai l'impression que Paul voit d'une manière détachée l'épreuve dans laquelle il se trouve. En fait, on voit bien que l'épreuve pour lui est quelque chose de terrestre et qu'il reste spirituel. Et qu'est-ce que j'aimerais, moi, devenir comme ça? Envoie ta lumière et ta fidélité, psaume 43. Qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Et ça, c'est une question importante à laquelle tu dois répondre. Quel enseignement je dois retenir de mon épreuve? Il y a toujours une leçon à retenir de l'épreuve dans laquelle on passe. Toujours. Toujours. Et dites-vous bien qu'on retient plus de nos épreuves que de nos réussites. Quel enseignement à retenir de mon épreuve? L'épreuve permet à notre Père de nous apprendre à travers l'épreuve. Maintenant, je voudrais parler de la consolation, parce qu'elle me paraît importante. Donc, je ne suis pas là pour vous dire pourquoi l'épreuve, que Dieu est instigateur de l'épreuve, et on ne va pas faire une étude théologique sur l'épreuve. La résultante, en tout cas, c'est qu'en fonction de ce que j'ai fait comme mal, j'aurai des épreuves. Des fois, même parce que je vais être intègre, j'aurai des épreuves. Et tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des épreuves. Maintenant, c'est comment je vais réagir et qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant? Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Comme un homme que sa mère console. Je ne dirai pas ce que je dis tout le temps lorsque mes enfants sont malheureux et qu'ils vont voir Maryse et qu'ils se mettent. Comme une mère console son fils, ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. La première des choses, c'est que Dieu veut nous consoler. La deuxième des choses, c'est que Dieu veut, à travers notre consolation, que nous soyons capables de consoler les autres. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Hé, arrêtez de les regarder, ils sont beaux, mais regardez ça. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Et je voudrais vous lire ceci. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il est pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Quelle est la douleur de ton épreuve aujourd'hui? Est-elle morale? Est-elle physique? Et Jésus a porté tes douleurs à la croix. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Et l'épreuve vient souvent de notre désobéissance. Elle vient souvent de notre péché. Et même cela, il l'a porté à la croix. Même ça, même la conséquence de ta désobéissance, il l'a porté à la croix. Brisé à cause de nos fautes. Et regardez, je voudrais bien que vous vous arrêtiez là-dessus. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Vous savez pourquoi l'épreuve vient parfois et que Dieu permet l'épreuve? C'est pour que la puissance de la croix soit manifestée en nous. Pour que nous puissions vivre le miracle de la paix, le miracle de la guérison, le miracle de la restauration. Le miracle, et puis que nous puissions nous mettre à genoux devant le Père, dire « Père, je ne méritais pas cela !» Vous savez combien de jours de retrait de permis j'ai eu? Quelques mois plus tard. Une semaine. Et je suis sorti du tribunal de police. Et j'ai dit, Père, je méritais beaucoup plus. Et toi, tu as enlevé le poids, la conséquence de ma désobéissance. L'épreuve que vous vivez, que nous avons vécue, que nous vivons ou que nous allons vivre, elle est ce qu'elle est. Mais Dieu veut consoler. Et Dieu veut rétablir. Et Dieu veut guérir. Et tout le poids de notre désobéissance, il a pris sur lui. Il est en train de te dire, t'inquiète, je m'occupe de tout. C'est là l'expression de l'amour du Père. C'est là l'expression de l'amour de Dieu. Et nous allons prier maintenant. Je voudrais vraiment qu'on ferme les yeux ce matin. Qui d'entre nous a besoin de consolation? Y a-t-il des personnes qui ont besoin d'être consolées ce matin? Ouais. Y en a-t-il d'autres? Ouais, oui. Allez. Y a personne qui vous voit, y a que moi. Ouais. Oui. Quand mon âme Mon âme, Seigneur, soupire après toi. Elle soupire comme une biche qui cherche les courants d'eau. Mon âme a soif, Dieu vivant. Et mon âme a souvent été desséchée par l'épreuve. Et mon âme, tu entends les pleurs, les cris de mon cœur. Et je dois te dire, Seigneur, que je dois beaucoup recevoir de toi. Je dois beaucoup recevoir de ta personne, Seigneur. Et ce matin, je me retrouve devant toi, non plus comme une personne en colère ou dans l'incompréhension, mais je ne veux pas que l'épreuve de ma vie vienne altérer ma relation avec toi. Et je viens vers toi dans ta présence aujourd'hui. Je viens tout près de ton cœur, Père. Je sais que tu m'aimes. Je ne me remets plus en question ton amour. Je ne remets plus en question ta compréhension. Je ne remets plus les choses te concernant en question, mais je viens pour aller vers toi. Je viens te demander et je fais cette prière. Et c'est toi que je cherche dans ma prière. Ce matin, je renouvelle ma foi en toi. Ce matin, je renouvelle ma confiance en toi. Ce matin, je renouvelle ma vie en toi, Seigneur. Et je viens dans ta présence. Je sais qu'il y a des choses qui ont été brisées en moi par rapport à ce que j'ai vécu. Je sais qu'il y a des choses difficiles que j'ai vécues dans cette année 2019. Mais je voudrais commencer cette année en étant renouvelé dans ta présence, en étant renouvelé dans ton amour. Et je te remercie parce que tu as porté la conséquence de mes péchés, la conséquence des fautes, la conséquence de tout ce que j'ai fait. Tu l'as pris sur toi à la croix. Et je te remercie ce matin de me réconcilier. Je te remercie de me renouveler dans ta présence. Je te remercie de me permettre de vivre une année où je tiendrai ferme, quel que soit. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai péché par ma bouche, où j'ai péché par mes lèvres, où j'étais en colère contre toi, où j'ai amené des choses contre toi. Je te demande pardon, mon Père. Et je viens dans ta présence. Viens réparer mon cœur, Seigneur. Viens réparer mon âme. Et ce que j'ordonne ce matin, j'ordonne à mon âme de se taire. Et je laisse place à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de vie, au Saint-Esprit consolateur. Je veux que ce soit pas mon âme qui console mon esprit, mais que ce soit le Saint-Esprit qui console mon esprit. Et que ça se répande dans toutes les parties de mon être, esprit, âme et corps maintenant. Que les choses qui sont venues dans ma vie, qui sont venues dans mon corps, soient libérées maintenant au nom de Jésus. Toutes les conséquences de mes péchés, que cela, ça s'en aille maintenant au nom de Jésus. Je proclame la délivrance, je proclame la guérison, je proclame la restauration dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen.